franceinter.fr.
Sur ce sentiment inconnu dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à apposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission préparée par Laure Grand Besançon et Vera Lou de Reed, réalisée par Hélène Bizio et mise en musique par Djoubaka. Aujourd'hui à la technique, Julien Michel. Et la gourmandise ce matin, c'est une planche de la bande dessinée Spawn du Canadien Todd McFarlane. Pour ceux qui ne l'auraient pas lu, c'est l'histoire d'un lieutenant-colonel qui pactise avec le diable après sa mort pour revenir sur Terre afin de retrouver sa femme. Le problème, c'est qu'il revient sous une apparence immonde et que le malin l'a privé de sa mémoire. En plus de ça, lorsque ses pouvoirs lui permettent de reprendre forme humaine, il devient blanc alors qu'il est noir à l'origine et ça l'horripile tellement qu'il préfère redevenir monstrueux. Pour couronner le tout, sa femme s'est remariée et il est poursuivi par une créature gore qui arrache les cœurs de ses victimes. Bref, il ne va pas fort et l'exprime dès la première planche de la bande dessinée où, perdu dans une galaxie noire, il affirme « Je ne viens de nulle part, mon âme est noire, je voudrais mourir ». Encore. Un support dominical parfait en cas de spleen nihiliste. Le premier documentaire de notre apothicaire de l'âme, Un métier comme un autre, portait sur des fossoyeurs dans un cimetière. On suivit quelques captures de la vie de futurs magistrats, de vendeuses des galeries Lafayette et de collégiens des quatre coins du monde tâchant d'apprendre le français dans une classe d'accueil. Ancienne assistante à la réalisation de cinéastes ayant aussi pratiqué le documentaire, Riti Pan, Christophe Kieslowski ou encore Bertrand Tavernier, notre apothicaire s'est également illustré dans deux longs métrages, L'Arbre et Depuis Cotard est parti. Dans ses fictions, il y a du documentaire. Le réel, dit-elle, est toujours plus fort que l'imaginaire. Et le réel est partout, puisque dans presque tous ses films, aux côtés des vivants qui tentent de communiquer, il y a des fantômes. Julie Bertuccelli, bonjour.
Bonjour.
Alors tout d'abord, le petit rituel immuable de cette émission, je vais vous interroger sur votre rapport à la mélancolie. Êtes-vous un être mélancolique ?
Très, hyper mélancolique. C'est même trop.
Mais non, je
vois jamais très au noir, mais en même temps, je pense que je le fais à fond. D'ailleurs, j'en étais sûre que Trump allait passer. Je vois toujours le pire arriver parce que je pense, comme les Suisses, j'aime bien être déçue en bien.
Ouais,
quand
comprends.
Les choses arrivent dans le bon sens, je suis très heureuse. Non, mais je suis assez sombre, mais dans les films que je fais, j'essaye au contraire de voir le bon côté. Voilà, de la vie.
Oui, ce sont des films qui donnent de l'espérance sans justement être dans le déni de la sombreur du monde et des êtres d'ailleurs. Et il y a quelque chose qui m'a interpellée quand je lisais des interviews de vous. Vous cherchez à vous rappeler vos rêves nocturnes, puisqu'ils nourrissent votre travail, paraît-il. Et vous dites ceci, vous dites que le cauchemar vous a appris à ne plus refuser la peur. Prise de front, elle peut aider à se concentrer et notre fragilité fait notre force.
Oui, ben c'est-à-dire que on est tous fracassés de problèmes, hein. On a tous des fantômes de douleur, de tristesse, et tout ça. Et puis, en fait, moi, j'essaye de voir en quoi ils m'ont construit, en quoi ils m'ont rendu plus forte, et aussi chez tous les gens que je filme, c'est ça souvent qui me fascine le plus, quoi, qui me donne l'espoir, c'est que voilà, les gens qui ont vraiment traversé des difficultés, finalement, ils savent la valeur de la vie, quoi. Ils savent en quoi il faut. Elle est précieuse, elle est joyeuse, elle est. Donc, même si je filme pas mal de morts et qu'effectivement je pense à mes cauchemars et que je reste, je reste vigilante sur toute cette noirceur du monde, je me dis que c'est ce qui nous permet en fait de voir la belle vie, quoi.
Alors, je dois prévenir les auditeurs, ça va être une émission un peu spéciale parce que je n'ai jamais reçu autant de la part d'un invité de réponse. Et d'habitude, quand il y en a trop, on essaye de sélectionner un peu, mais là, c'est impossible. Et en plus, ça fait partie de vous, donc on va commencer par les remèdes que j'ai pu me procurer et étudier, puis on se perdra dans une débauche de réjouissance un peu anarchique. Alors, voici donc un demi-sommaire. Julie Bertuccelli, dans quelques instants, vous allez convoquer des comédies musicales, des claquettes, du violoncelle, la Bretagne, des nuages, la bagatelle, Buster Keaton, Confucius, Épicure, une poétesse autiste sans parole, votre père, votre grand-mère, Pierre Dac, Randy Newman, les Shadocks, Giacometti, l'Algérie du cinéma, une cabane, j'arrête là, sinon on va arriver à la fin de l'émission.
Je suis désolée, hein, je suis un peu foisonnante, c'est vrai que c'est mon défaut.
Mais comme ça vous caractérise, je voulais pas enlever ça en fait dans l'émission. Mmh. Et en tout cas, chers auditeurs, un feu d'artifice d'élan vital vous attend juste après ce titre, du même nom qu'un des présidents de la série 24 heures chrono, David Palmer de l'Escope.
déplace comme au ralenti, puis s'écroule sur un accoudoir. En masquant sa dyslexie dans la lumière bleutée du soir, il te parle et te sourit à la manière d'une superstar. David Palmer, David Palmer.
De la mélancolie sur France Inter, nous sommes en compagnie de la réalisatrice Julie Bertuccelli et de quelques stars du jazz des années 40.
Ladies and gentlemen, the cakewalk!
Il faut avoir de l'imagination. C'est une scène de danse d'un film de 1943, Stormy Weather de Andrew Elstone. C'est un film culte sur l'histoire du jazz. Ça se passe dans les années 40. Et on suit la sublime chanteuse Lena Horne et le danseur de claquettes Bill Robinson. Le film doit son nom à la chanson éponyme d'Ethel Waters, qui est reprise dans le film par l'actrice principale. Et film très inspiré par la vie des deux acteurs d'ailleurs. Et malgré les cinq scénaristes, l'histoire importe peu. Ce sont les chansons et les scènes de claquettes qui vous stimulent.
Oui, et puis c'est joué que par des acteurs noirs. C'était la première comédie musicale.
Ce qui est exceptionnel à l'époque.
Exceptionnel, et c'est des bijoux. Hein. Chaque moment de danse, chaque moment, je les connais par cœur. J'adore. Puis cette chanson, Stormy Weather, c'est un peu mélancolique, hein,
certes. Très.
Mais le film, moi, chaque fois, m'emplit de joie. Quoi. Bon, faut dire que j'ai fait des claquettes, j'adore ça. J'ai toute mon enfance été baignée de comédie musicale. C'était ma petite drogue. Et celle-là, quand je l'ai découverte, je ne sais plus très bien quel âge, mais. Vraiment, c'était un autre niveau de voilà. C'était moins, il y avait moins la perfection hollywoodienne. Il y avait comme ça. C'était quelque chose de plus fragile, de plus particulier. Je rentrais dans un nouveau monde et mon père aimant beaucoup le jazz, j'écoutais beaucoup de jazz. Le jazz, c'est aussi une comédie musicale. Enfin, il y avait une adéquation magnifique. Donc voilà, j'adore ce film.
Il y a une transmission de joie, vraiment, de la part de tous les comédiens dans ce film. Il y a beaucoup de musiciens en vedette de l'époque. Il y a Cab Calloway qui est
Calloway,
formidable. Cab
mais c'est des scènes magnifiques. Les deux frères, claquettistes, somptueux.
Enfin, les voilà, Nicolas Brothers. Fred Astaire disait que c'était le plus grand numéro de danse de l'histoire.
Quand ils descendent, ils glissent là, comme ça sur le côté. Non, mais c'est vraiment un film merveilleux, quoi. Merveilleux.
Et Julie Bertuccelli, vous avez cité plein d'autres comédies musicales. En fait, c'est ça qui vous réconforte. Mais en fait, c'est ce qu'il y a de plus éloigné du réel, finalement.
Bah oui, mais c'est ça qui est bien.
Bah ouais.
C'est ça. Je ne vous contredis pas. Voilà, c'est ça qui nous
faut. Mais c'est drôle pour quelqu'un qui s'est surtout spécialisé dans le documentaire.
Oui, mais bon, j'aimerais bien genre faire une comédie musicale. Mais c'est oui, bah c'est-à-dire que ça nous éloigne. Enfin, c'est moi, je sais que j'aime quand même pour autant le réel et j'ai envie de vivre à travers les films et de découvrir le monde comme ça. Mais pour m'échapper par moments, c'est sûr que je comprends très bien que voilà qu'on ait besoin de quelque chose de très loin de nous. Bon après les comédies musicales, il y en a certaines plus ou moins bien. Parfois, c'est juste les moments de danse qui sont bien, puis l'histoire est un peu nulle. Puis il y en a d'autres où en fait, bon, comme Demi ou d'autres, enfin, qui arrivent à faire que c'est toute notre vie qui est racontée et que du coup, ça parle vraiment de nous et de choses très réelles, un peu, embellies, un peu colorées, un peu, magnifiées. Mais c'est quand même de l'âme humaine, ça parle. Voilà.
Je crois que vous étiez à New York récemment.
Ouais.
Et depuis 1989, le 25 mai, plus aucune voiture n'a le droit de circuler dans Broadway, qui devient une gigantesque piste de danse pour célébrer le Tap Dance Day, le jour des claquettes. Ouais. Et les claquettes, bah, vous l'avez évoqué, ça fait partie de vos pansements, et tout comme 248 autres choses. Ouais. Notre réalisatrice Hélène Bizio a illustré 4 de vos activités consolatoires. Connu des claquettes, la bagatelle par Donna Summer, un feu d'artifice et la suite pour violoncelle numéro 2 en ré mineur de Bach, bien évidemment. Alors, d'abord les claquettes, vous avez pris des cours ?
Oui, j'ai pris des cours avec une prof exceptionnelle, c'était au Centre américain à l'époque, elle s'appelait Sarah Petronio. Et c'était aussi beaucoup à partir de musique de jazz. J'ai fait ça pendant des années. C'était ma bulle d'énergie. Et j'en fais toujours un peu, en fait. Je peux pas m'empêcher en dansant, en attendant le bus. Et puis, en plus, c'est quand même une danse qui raconte beaucoup, hein. Historiquement, comme ça, aussi sur l'histoire américaine, sur les Noirs c'était leur manière de résister, de se révolter en dansant ça. Et c'était vraiment, moi je trouve que c'est une des danses les plus passionnantes. Alors évidemment, il y a aussi tous ces trucs flamenco, enfin il y a tous ces dérivés, pas ces dérivés, mais disons ces concordances comme ça avec d'autres danses des pieds. Mais celle-là, je trouve qu'elle est très puissante parce que c'est un rapport aussi au sol. On est dans une chorégraphie certes, mais c'est vibratoire quoi.
Une affirmation de l'élan vital.
Ouais, ouais.
Il y a aussi, donc jouer du violoncelle, nager en Bretagne et faire de la voile, les feux d'artifice, regarder les nuages, les étoiles filantes, un gros feu de bois dans les bras de mon amoureux. J'ai l'impression que vous êtes assez contemplative. Ça peut pousser à la mélancolie, parfois ça peut l'engendrer, la contemplation.
Ouais, mais alors, pour le coup, la contemplation de la nature, autre chose. Bon, les feux d'artifice, c'est encore autre chose. Ça aussi, c'est des madeleines de mon enfance. Quand, avec mon père, on allait à Monaco au festival de feux d'artifice, puis j'ai passé une excitation. Enfin, c'est un truc extraordinaire, le feu d'artifice. Moi, je suis hystérique, j'hurlais, je criais, de bonheur, d'explosion, enfin, toute l'énergie, peut-être que j'ai, qui enfin pouvait s'exprimer, je sais pas. Donc ça, puis la beauté, la surprise, l'étonnement. Donc voilà. Mais il y a le feu d'artifice aussi dans les étoiles filantes. Il y a toute cette nature immense. C'est pas une mélancolie qui attriste, c'est une mélancolie qui vous remet dans la petitesse dans laquelle on est. C'est-à-dire se recentrer sur on était une petite chose par rapport à la vie des étoiles, quoi. Nos tristesses, c'est rien, en fait, par rapport à l'univers. Donc, c'est bon, quoi. On peut passer à autre chose. C'est pas très grave d'être triste par rapport à la vie des étoiles.
C'est vrai qu'aller faire un petit tour du côté du macrocosme, ça fait toujours du bien.
Ça fait toujours du bien.
Et alors, dans toutes vos activités anti-spleen, il y en a une que j'aime beaucoup parce qu'elle est très pratique quand un membre de votre prochain est justement trop proche ou que vous avez la flemme de vivre une situation. Je vous cite, enlever mes lunettes et voir tout un peu flou.
Ouais, ça c'est ma chance d'être un peu myope. Et que par moments, vraiment, ça fait du bien d'avoir cette douceur presque picturale, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, le monde est autre. C'est comme à travers la pluie. Ça fait du bien de...
Ça adoucit le monde.
Et puis, on n'a pas besoin de tout voir comme ça, avec le point. J'adore, même quand je filme, ou quand je fais des essais de caméra, ou quand je fais des documentaires que je tiens à la caméra, et que tout d'un coup, bon, avant même que de commencer, c'est un peu flou et tout, et c'est un bonheur que de voir que c'est aussi notre regard à nous qui doit changer parfois. C'est pas la réalité. De toute façon, en philo, je l'ai tellement vu, ça. C'est sûr que la réalité, on sait pas ce que c'est. Ça n'existe pas. C'est quand même comment on le vit. Donc, à nous de faire le point.
Et c'est vrai que c'est terriblement violent, la haute définition.
Ah, bah oui, c'est atroce. En plus, c'est laid. Souvent, moi, je trouve que l'image à la télévision, maintenant, cette haute définition parfaite, clinquante, des grands écrans, machin, c'est immonde. Donc, c'était la force du 35, de cette image qui brouille, là, qui brime, qui, je sais plus comment on dit d'ailleurs. Enfin, voilà. Et ça, c'était ce filtre de notre regard. Et c'est hyper important.
On vous a interrogé sur les idées qui vous soutiennent, une profusion évidemment. Alors, un petit mot sur chaque, si vous le voulez bien, Julie Bertuccelli. On a deux vies. La deuxième, c'est quand on prend conscience qu'on n'en a qu'une.
Bah oui, parce que on joue pas mal avec le feu, Bon, c'est aussi d'avoir des enfants, ça change aussi une perspective pour moi. C'est sûr qu'en plus, deux de mes trois enfants ont perdu leur père et du coup, je sais bien que moi, il peut plus rien m'arriver, quoi. Je peux plus leur risquer de les rendre malheureux et de perdre leurs deux parents. Et puis surtout, c'est important de savoir que chaque moment qu'on vit, voilà, il faut jamais retarder, repousser trop au lendemain, dire aux gens qu'on aime, voilà, qu'on a besoin d'eux, ou arriver à être dans l'instant, quoi, vivre le présent et en même temps nos rêveries, hein, se laisser aller dans la rêverie, mais aussi profiter du présent chaque fois, le vivre intensément.
Je crois que le jour de l'enterrement de son père, justement, il y a votre fille qui a eu cette très jolie phrase que vous avez reprise dans l'arbre, qui est « Dans la vie, on peut choisir d'être heureux ou malheureux. Moi, j'ai choisi d'être heureuse. »
Oui, c'était incroyable. Elle avait 5 ans. Elle disait ça à sa copine qui lui disait « Ouais, dis donc, t'as pas l'air si triste. » Elle dit « Ben voilà, moi, j'ai décidé d'être heureuse. » Bon, c'était une volonté, certes, mais enfin, c'est vrai que je suis un tout petit peu parfois... dans cette idée-là aussi, moi, de me dire que bon, tout étant subjectif, il y a un moment donné, sans que ce soit une méthode Coué un peu banale, mais il faut voir le verre à moitié plein, quoi.
C'est une décision,
Décision parfois, bah oui, parce que c'est-à-dire que c'est une décision sur le moment. Après, ça nous entraîne en fait, même si c'est pas vrai que c'est facile de vivre la vie, mais au moins ça donne une énergie, ça une impulsion, quoi.
Alors, vous parlez de l'animisme aborigène.
Oui. Bah, c'est-à-dire que c'était une rencontre, bon, j'avais déjà, même en philosophie, vachement aimé ce rapport cosmologique, comme ça, et le microcosme et le macrocosme, hein. Chez les aborigènes, c'était vraiment magnifique. Quand j'ai fait l'arbre, j'ai passé comme ça plusieurs mois en Australie. C'était pas totalement dans le film, mais quand même, le film était nourri de ça, parce que c'est une petite fille qui croit entendre la voix de son père dans l'arbre, alors qu'il vient de mourir, comme s'il était... Il s'était réincarné. Et c'est vrai que c'était une histoire très, très fortement aborigène, en fait, parce que pour eux, tout est dans tout. Il y a chaque arbre à son âme, chaque partie de l'univers de l'homme fait partie d'un tout qui vit, qui a d'autres passés, d'autres vies. Donc c'est très puissant, en fait, de tout d'un coup, quand on se met dans cette simplicité, que la nature est à égalité de nous, et que tout respire, moi, ça m'a totalement nourri.
Il y a une sorte de sentiment océanique dans ça, j'ai l'impression. Mm-hmm. Vous citez aussi Confucius.
Ouais.
Ce que la chenille appelle la fin du monde, le maître l'appelle le papillon. C'est à nouveau une question de regard, mais de lutte contre soi, parce que c'est tellement facile de voir la fin du monde partout et tout le temps.
Bah oui, c'est qu'aussi toutes les choses ont un sens les unes avec les autres, et puis il faut ouvrir un peu le regard, quoi, prendre de la distance, que fait peu d'ailleurs la société. Elle voit jamais à long terme, elle fait toujours d'ailleurs, et la politique fait toujours tout pour le lendemain seulement, sans penser à voir loin. Donc l'histoire bégaye, se répète, que voilà, l'humanité n'est qu'une suite de catastrophes.
Enfin, ne parlez pas d'elle.
Donc voilà, n'en parlons plus.
Mais c'est assez paradoxal, puisque il y a ce côté très vraiment de saisir le jour, saisir l'instant présent, et puis se projeter. Par exemple, vous dites, il faut succomber à la tentation avant qu'elle ne s'éloigne. C'est d'Épicure. Bon, n'importe quelle tentation, c'est votre côté licencieux, ça.
Non, parce qu'en même temps, et là, j'ai un grand défaut, c'est que je me drogue pas du tout. J'ai toujours eu peur de charrier. Ah non, mais je charrie, parce que j'ai trop peur depuis l'enfance de la dépendance.
Vous mettez aucune chance de votre côté pour le bonheur, en fait.
Aucune chance. Mais en fait, j'arrive à être saoule sans boire, j'arrive à être totalement, disjonctée sans me droguer. Mais j'ai toujours eu peur, effectivement, de la dépendance ou de me sentir pas maître de moi-même, tout ça. Alors peut-être parce que j'ai eu des petits traumatismes, j'en sais rien. Des choses qui m'ont marqué quand j'étais petite. Mais c'est ailleurs que ça se passe, en fait, aussi, succomber à la tentation, c'est vivre l'instant, se laisser dans cette liberté d'instinct aussi. C'est-à-dire que moi, j'essaye, même quand je filme, quand je fais des documentaires ou des fictions, d'être dans mon instinct pur, donc parfois d'être tenté de quelque chose qui serait pas vraiment dans les clous, d'improviser quelque chose. Et voilà, c'est aussi ça la tentation, c'est d'être libre de nos envies. Voilà.
Il y a Épicure de nouveau. Être riche, ce n'est pas augmenter ses biens, mais diminuer ses besoins. Est-ce que vous avez beaucoup de besoins? Est-ce que vous avez réussi vraiment à les diminuer par la volonté?
J'essaye. C'est du mal, mais quand même, il y a vraiment beaucoup de besoins que j'ai éliminés complètement. J'ai encore quelques gros défauts du côté des vide-greniers et compagnie. Oui. Ça, c'était aussi dans mes activités qui me mettent en joie. C'est vrai que je suis un peu trop obsédée par les objets, par les brocantes, par le plaisir de dénicher le truc. Donc, je suis un peu trop encombrée de tableaux, d'objets, de souvenirs, de meubles, de trucs. Donc, ce côté-là, ces besoins, j'ai du mal. Mais quand même, je vois que j'ai réduit mon niveau de vie est vraiment... Voilà, je reste tout, j'achète très peu de fringues, je pense quand même que je suis assez sérieuse de ce côté-là, quoi. Je me dis que c'est pas là que ça se passe pour moi. Mais voilà. Après, il y a une autre phrase de Nietzsche que j'aimerais bien que je ne l'ai pas vraiment dite, mais parce que je pense que aussi, vu l'ambiance aujourd'hui, c'est il n'y a que celui qui a connu le chaos en soi qui peut accoucher d'une étoile qui danse. Et alors ça, c'est aussi pour parler d'ailleurs de la jeune femme que j'ai filmée. Là, dans mon dernier documentaire, La Nouvelle du Cosmos. Mais c'est aussi quelque chose que je pense qu'on a tous quand on a connu le chaos en soi. C'est aussi, moi aussi, j'ai connu mes morts, des grosses tristesses. Mais c'est ça qui, quand on dit qu'il y a une force à aller jusqu'au bout de nos handicaps ou de nos tragédies personnelles, c'est cette étoile qui danse. Il faut assumer qu'on a souffert et qu'on le transforme en quelque chose, qu'on le développe en imaginaire. C'est une force, en fait.
Cette phrase, il faut se la faire tatouer sur l'âme, ouais, en urgence. Et je finis sur la phrase de Lao Tzu que vous avez citée. Avant de dire ce que tu penses, essaie de savoir si le silence n'est pas plus beau que ce que tu as à dire. J'ai compris, je me tais. Et dans un instant, on se retrouve malgré tout, parce que je peux pas tenir longtemps, on parlera d'une poétesse singulière, c'est juste après un titre de la playlist Inter, Flipside de Norah Jones. Oh.
temperatures well past 102. Put the guns away, or we're all gonna lose. Stand by or take flight. Eat or throw.
De la mélancolie sur France Inter, toujours en compagnie de la réalisatrice Julie Bertuccelli. On a choisi d'illustrer votre sérum littéraire par un extrait de votre dernier documentaire en salle en ce moment, Dernière nouvelle du cosmos.
Deux fois tes textes ont été mis au théâtre, donc deux fois tu les as entendus, dit par des acteurs. Quel effet ça fait? Ça fait des étincelles.
Extrait de votre documentaire, Julie Bertuccelli, Dernière nouvelle du cosmos, qui suit Hélène Nicolas, une jeune femme autiste de 30 ans qui a été diagnostiquée enfant autiste très déficitaire. Elle n'a pas accès à la parole, ni à l'écriture à la main et communique depuis ses 20 ans à l'aide d'un alphabet en lettres cartonnées. Et ce qui est fou, c'est qu'elle est l'auteur de recueils de poésie qui ont été adaptés à la scène. Elle se surnomme elle-même, d'après son surnom d'enfance, Babouyek, autiste sans parole. Vous avez choisi pour l'émission ces recueils, Raison et acte dans la douleur du silence et Algorithme éponyme. Et ce que vous aimez chez elle, je vous cite, c'est sa liberté sans limite, son voyage dans les étoiles qui brillent dans sa tête.
Ben oui, c'est une poète inouïe, hein. Elle nous surprend, elle nous montre que nous sommes extrêmement, nous, handicapés et limités.
C'est drôle, en plus.
Ouais, c'est drôle. Elle a un humour corrosif incroyable. Enfin, pendant le film, pendant le tournage et ce qu'on voit dans le film, elle nous répond, elle nous retourne, elle nous subjugue. Moi, j'étais sidérée, hein, de son écriture. Et c'est vrai que ses livres, qui sont ou des textes poétiques ou des textes de théâtre, ou maintenant elle écrit des livrets d'opéra, elle écrit des paroles pour des chansons, enfin elle est inouïe de tout ce qu'elle va encore nous offrir. C'est des textes qui me nourrissent maintenant. Bon, évidemment, j'avais plein d'autres auteurs que j'aurais pu vous citer, mais bon, vraiment là, son écriture, moi, elle m'a retournée, quoi. Parce que c'est aussi une poésie qui nous rappelle que c'est quand même la poésie un peu l'essence de l'homme, enfin sa grande qualité, ce qui fait qu'on est des êtres humains, c'est cette capacité comme ça à transcender les mots, à leur donner des sens différents. Voilà, c'est.
J'ai lu Algorithme éponyme. Il y a une sorte de géométrie cosmique dedans. En tout cas, on sent que les limites sont transcendées. Parce qu'elle a des limites physiques, en fait, mais qu'elle dépasse largement. Et c'est vrai qu'il y a toute cette réflexion sur le fait qu'en fait, on est beaucoup plus limité. Je pense à cette phrase. Nous devons, dès la naissance, apprendre à compter sur nos propres ressources pour marcher dans le système préétabli du développement de la personne sociale intégrée. Et la métaphore aussi de la boîte de cornichons posée sur une étagère.
Ben oui, oui. Et en plus, elle dit elle-même, quand on lui demande comment elle a appris à lire ou écrire, parce qu'elle n'est jamais allée à l'école et qu'on ne lui a jamais lu de livre, et pourtant elle a un vocabulaire hallucinant, oui, sans faire une faute d'orthographe, elle dit, ben, c'est en jouant avec toutes les parties secrètes de mon cornichon de cerveau. Elle fait ça, elle nous fait des pirouettes aussi, parce qu'elle reste un mystère, mais un mystère télépathe, elle a sa manière à elle. Enfin, être autiste, c'est aussi une autre manière d'être au monde, c'est une autre intelligence, c'est pas comparable à la nôtre, une mémoire éblouissante, une manière de capter le monde autrement. Elle n'a pas nos mêmes capteurs, voilà. Et donc elle, pour elle, comme elle dit d'ailleurs elle-même, j'ai une phrase que je trouve très belle, elle dit « Les mots vivent en moi comme une respiration et je nourris ma fringale poétique avec cet oxygène cérébral. »
Elle dit aussi, quand elle parle de mélancolie, « La petite étincelle de spleen dans mes circuits comme une auto-tamponneuse. »
Ouais. Non, mais c'est chaque fois ce livre. Enfin, il est maintenant il est édité aux éditions Rivage, Payot. Et il y a trois textes, dont un inédit, Je, qui est sublime. Enfin, tous ces textes sont à tomber à la renverse de beauté, quoi. Je saurais pas. Enfin, j'ai essayé d'en mettre quelques-uns comme ça à vous lire, mais c'est vachement dur. Une des phrases comme ça. Nous survivons par l'instinct de survie. Seul l'acte d'aimer nous sépare du vide. Acte dans l'absolu. Et puis bon, après je saute un peu parce que c'est tellement foisonnant aussi, mais un cri sort de la boîte à penser. Le fil d'Ariane a trouvé la sortie de secours de mon cerveau. Marcher à contre-emploi peut libérer le réflexe de mise en acte de la pensée. Nos errances intellectuelles rassemblées au centre d'un chemin unique dessiné par la main de la conception, mutilée de l'érosion du temps. Mourir n'est pas de mise. Halte à la montée en puissance des têtes endormies et aussi des cerveaux débranchés. Elle parle souvent de nos cerveaux débranchés. J'aime à penser que tout confondu, même partiellement otage de nos émotions, nous traversons le désert humain domestiqué par lui-même en devenant nous-mêmes. C'est chaque fois tellement puissant. L'amnésie nous invite à vadrouiller comme on part en voyage. Rêver l'impossible sentiment d'exister par soi-même, hurler le temps d'un étrange déjà vécu, mystérieusement les soifs d'aventure s'autocensure. Être ou ne pas être devient l'incessant aller-retour de la pensée. Et une dernière phrase qu'elle dit, pas dans ces mots-là, mais elle dit « Être ou ne pas être, telle est la question, et dire merde à ceux qui savent, telle est la réponse. »
Une grande philosophe. Raison et acte dans la douleur du silence et algorithme éponyme est le titre de votre dernier documentaire en salle, Dernière nouvelle du cosmos. Et je précise aussi qu'Algorithme éponyme sera mis en scène par Pierre Meunier et Marguerite Borda au Théâtre de la Ville en février prochain sous le titre Forbidden di Sporgersi, d'après une formule de son recueil. Interdit de se pencher. Alors, voici venu le temps des citations Becky. Il n'y en a évidemment plus de 10.
Ouais.
Courage mon âme, le ciel est au bout, c'est votre arrière-grand-mère. Alors quoi, la mort comme réconfortant?
Non, c'est de se dire que c'est juste, voilà, la mort est, enfin, je sais pas, le ciel est au bout. Il y aura aussi des choses qui vont se passer très bien. Il faut prendre courage parce que effectivement, il y aura peut-être une autre vie, mais en fait, qu'il y ait une autre vie sur Terre. Hein. Quand elle me disait ça, c'était peut-être religieux, mais c'est, moi, je le prenais comme un truc. Oui, il y a un autre moment dans la vie qui sera le ciel.
Votre grand-mère, parce qu'il y a presque toute votre famille. Votre grand-mère, quand une porte se ferme, dis-toi, mon fils, qu'une fenêtre s'ouvre. Mais alors, parfois, les fenêtres se ferment en même temps que...
Oui, mais bon, après, ça, c'est, j'avais une grand-mère exceptionnelle. C'était la mère de mon père qui était coiffeuse dans le Midi.
Puis elle vous disait, mon fils.
Oui, non, mais ça, elle le disait ça à mon père. Donc, quand là, c'était une phrase que lui me recitait chaque fois, tout le temps, et qu'il aimait. Parce que c'est vrai que dans tout, et moi, je le vis aussi, hein. Comment parfois toutes les impossibilités qu'on a, les gens qui nous ont pas aidés, moi pour mes films, je sais pas, un telle chaîne nous a pas pris, on n'a pas eu l'avance sur recette, machin, toutes ces difficultés, en fait, c'est toujours des autres portes, ça va s'ouvrir ailleurs, et tant mieux, parce que d'abord, dans ces refus, dans ces difficultés qu'on a, on est devenu encore plus fort, on a réussi à éprouver que ce sujet, c'était le nôtre, qu'on avait envie d'aller jusqu'au bout. Et puis en plus, on en est plus fort, quoi, d'avoir réussi malgré la non-aide, quoi. D'un coup, on est... Enfin, moi, ça me ragarrit quand j'y arrive, malgré que les gens étaient contre moi. Enfin, à la Cour de Babel, où, voilà, c'était des films où personne n'en voulait, puis finalement, on a réussi à aller jusqu'au bout, on est encore plus fort, parce que on a eu confiance en nous, quoi.
Mais quand on voit Dernière nouvelle du cosmos, on se dit qu'on ne peut plus abandonner un projet sous prétexte que c'est difficile.
Ah ben non, mais au contraire, moi, c'est ce qui me nourrit, c'est ce qui me motive, c'est que ce soit difficile. Si je vois déjà dans une idée ou dans un scénario que j'ai envie d'écrire, si je vois déjà le film que ça va être, si j'ai l'impression de l'avoir déjà fait, si je sens que ça va être un peu facile, ça, je n'ai pas du tout envie de le faire. Alors, c'est pas le challenge pur et dur, ça va être une aventure de faire cette chose, ça va être un moment de ma vie. Je vais y passer 3 ans, il faut au moins que j'ai des choses à découvrir, quoi. Il faut que ça soit dur, donc que ça soit une épreuve monstrueuse, mais que ça m'enrichisse, que je vais faire des choses que j'ai jamais fait. Voilà, c'est quand même ça le plaisir. Donc, la difficulté de réussir ne fait qu'ajouter à la nécessité d'entreprendre. Autre phrase que disait beaucoup mon père.
Oui, il y a beaucoup d'autres citations, mais je vais devoir en choisir parce qu'on est très en retard. Mais non, mais c'est formidable. La vraie réussite, c'est de passer d'un échec à l'autre sans perdre de son enthousiasme. Si on renonçait tout simplement à réussir.
Oui, alors on peut aussi... Après, moi, je dois avoir aussi ce petit souci, c'est que je me sens toujours un peu obligée d'essayer d'être perfectionniste pour quand même réussir, quoi. Voilà.
Non, mais
ça rend malade, ça rend angoissée.
Je donnais
angoissée.
Une solution comme ça, mais j'ai pas osé.
Je crois que je vais pas y arriver.
Y aller non plus.
Enfin, je réussis pas toujours, c'est pas que je dis, mais voilà.
Ah oui, l'échec est quand même présent tout le temps, mais ça enrichit.
Ou un
justement.
Optimiste est un homme qui voit une chance derrière chaque calamité, c'est aussi, voilà.
Et ce sont mes principes, mais si tu n'es pas d'accord, j'en ai d'autres. Marx Brothers.
Oui, ça j'adore.
Alors là, nous allons imaginer, mais tout en gardant l'habillement de la pudeur, notre prochain nu.
Baby, take off your coat. Real slow. Baby, take off your shoes. Yeah, I'll take your shoes. Baby, take off your dress. Yes, yes, yes. You can't leave your hat on. You can't leave your hat on.
Alors, cette chanson a été rendue célèbre par l'interprétation de Joe Cocker en 86 dans le film 9 semaines et demie d'Adrian Lyne, puisque c'était pendant le striptease de Kim Basinger. Mais là, c'est l'original, elle date de 1972, You Can Leave Your Hat On, du pianiste et chanteur américain Randy Newman. Tu peux garder ton chapeau, le propos est assez charitable. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce morceau ?
Moi, c'est toute mon enfance, c'est mon père. On écoutait en boucle Randy Newman en voiture partout. C'était un de ses musiciens préférés. Et moi, ça a bercé totalement ma vie. Et je n'ai qu'une envie, c'est de le rencontrer. Puis un jour, lui demander, il faut que je me grouille d'ailleurs, mais que je lui demande de faire la musique d'un film. Je rêvais que mon père fasse un film avec lui aussi.
Il compose pour beaucoup de films, et notamment les Disney Pixar.
Mais oui, oui, mais bon, avant.
Toy Story.
Mais c'est vrai qu'il a vraiment des chants. Je crois qu'on le connaît pas du tout assez, quoi. Je trouve que c'est vraiment un musicien qui fait absolument un chanteur inouï, avec un humour aussi hyper corrosif que j'adore. Enfin, ça m'ouvre juste une nostalgie aussi. Je connais pas toujours toutes les paroles. Je sais pas, mais c'est vous savez, des chansons comme ça. Il y a les Beatles aussi que je connais par cœur, mais voilà, c'était les deux, Beatles et Randy Newman, c'est mes préférés.
Die Kriegsknechte aber, da sie Jesum gekreuziget hatten, nahmen seine Kleider und machten vier Teile, einem jeglichen Kriegsknechte sein Teil, dazu auch den Rock. Der Rock aber war ungenäht, von oben an gewürget durch und durch. Da sprachen sie untereinander: Lasset uns den nicht zerbrechen.
Bach, la passion selon Saint Jean.
Oui, alors ça, c'est du swing, non ? C'est sublime, quoi. C'est un morceau. Alors, dès que je suis mélancolique, je commence à être triste, je me mets ça à fond. Je vous conseille vraiment tous, là, de l'écouter hyper fort chez vous. Et je décolle. C'est mon adrénaline, quoi. C'est un morceau qui, alors, j'ai mis d'ailleurs dans l'arbre, on est dans mon film. Je sais pas pourquoi, c'est un morceau qui me fait m'envoler et qui me donne de l'énergie en barre, quoi. Et je trouve ça somptueux, quoi. C'est une polyphonie sublime. C'est Bach, quoi.
Alors, Judy Bertuccelli, en hommage aux origines russes que vous avez fantasmées pendant votre enfance,
vous savez tout,
oui. On va vous faire écouter un morceau de 99 du groupe à Banane Folle, The Red Elvises, les Elvis rouges, et c'est Cosmonaute Petrov.
С грустью смотрю на вращение земли. Желтеет восток в ультрасиней пыли. Камнем во тьму пролетел метеор. Я ответил прием и согнул Беломор. Я космонавт Петров. Петров,
Романов Петров.
Cosmonaute Petrov, pépite dénichée par Djoubaka dans Remède à la mélancolie sur France Inter avec Julie Bertuccelli et ses créatures anti-spleen.
Les Shadocks ressemblaient à des oiseaux. Ils avaient un bec et des pattes, mais leurs ailes étaient ridiculement minuscules. Au début, les Shadocks pondaient des œufs ordinaires, mais comme ils avaient de trop longues pattes, ces œufs-là se cassaient. Maintenant, les Shadocks pondent des œufs en fer. Il y en a de deux sortes. Les œufs avec les pieds en bas et les œufs avec les pieds en haut. Ces œufs-là, on les envoie de l'autre côté de la planète. Les Shadocks sont excessivement méchants.
En avril 1968, sur la première chaîne de l'ORTF, était diffusée la série légendaire de Jacques Rouxel, contée par Claude Pieplu, Les Shadocks. Et ça vous met en joie avec Buster Keaton, Pierre et Tex, les blagues de votre père, Sylvie Joly, Zouk, et le comique qui ne finit pas ses phrases et mélange les mots.
Ah oui, ça j'ai oublié de retrouver le nom, tant pis. En tout cas, ouais, Les Shadocks c'était jubilatoire, il y avait une ironie métaphysique, c'était comme ça des lunettes pour voir le monde. Les lunettes Shadocks, moi ça m'a toujours aidé beaucoup. Donc voilà, je les remercie encore, sans fin, d'avoir existé.
Et alors, dans ce qui vous fait rire, il y a aussi chuter et tomber dans un trou.
Oui, ben ça c'est le propre du gag, quoi. Mais moi, chaque fois, ça me fait hurler de rire, quoi. Quelqu'un qui tombe dans un trou, même moi, quand je tombe, j'adore, j'éclate de rire.
Vraiment ?
Vraiment.
Je me rappelle à peu près exactement le jour en 45, quand étant aux actualités à Montparnasse, je ne voyais plus des images sur l'écran, mais simplement des tasses qui bougeaient. Et les personnes assises à côté, c'était comme si je la voyais pour la première fois. Et c'est à partir de ce moment-là qu'évidemment, j'avais le besoin de tâcher de me rendre compte de ce que je vois, donc de faire la peinture et la sculpture que je fais. Et en même temps, je sais que elle ne peut jamais être qu'un échec. Mais en réalité, ce n'est qu'à travers l'échec même qu'on peut s'approcher un peu. C'est-à-dire que le fait de réussir ou rater, ça n'a plus aucun sens.
Le regard et l'échec, ce sont nos deux sponsors de ce matin. C'est Giacometti en 1963, un artiste qui figure dans la multitude que l'on s'apprête à évoquer. Enfin, même si je pense qu'on n'aura pas le temps. Vous allez me dire, Julie Bertuccelli, un petit mot sur Giacometti. Mais c'est aussi assez amusant puisque vous avez cité les Shadocks. Alors, ils ont été inspirés par Miro, Clay et aussi par Tinguely, Calder et Kandinsky que vous avez choisi.
Oui, c'est vrai que c'était des mouvements, là, moi, qui m'ont construite. Alors, c'est vrai que j'ai eu la grande chance, j'ai toujours la chance d'avoir une mère, voilà, fanatique de peinture, qui avait une galerie de tableaux qui me traînait qui a toujours un centre artistique d'ailleurs, et qui me traînait dans les musées, les galeries. Et donc, ce regard singulier de l'artiste, ça m'a, voilà. Et Tinguely, c'est un de mes maîtres, ces machines qui, tout va de traviole et pourtant il y a une harmonie et voilà, et dans l'échec et dans la rupture, dans le truc qui marche pas, et ben, il y a un truc qui fonctionne, c'est le monde entier, quoi, qui est là.
Encore quelque chose qu'on peut appliquer dans tous les domaines.
Bah, dans tous les domaines. Ouais.
Bon, on terminera sur cette belle idée.
Le raté et l'erreur, il faut s'en nourrir. Hein. C'est souvent les plus grandes découvertes ont été faites par des trucs pas du tout prévus. Tout ça, voilà, il faut vivre avec cette errance qui est humaine.
Vive l'échec. Merci beaucoup, Julie Bertuccelli, d'être venue dans cette émission. On peut voir en ce moment en salle votre documentaire sur la poétesse sans parole Babouyek, Dernière nouvelle du cosmos. Je rappelle que l'un de ses recueils, Algorithme éponyme, sera mis en scène par Pierre Meunier et Marguerite Borda au Théâtre de la Ville en février prochain sous le titre Forbidden D Sport Jersey. Et vous êtes en préparation de votre troisième long métrage de fiction, Le dernier vide-grenier de Claire Darling.
Et lisez Algorithme éponyme de Babouyek aux éditions Rivage, c'est tellement beau.
Oui, lisez-le.
Et puis allez voir mon film.
Bah, évidemment, voyons. Chers auditeurs, vous retrouverez la programmation musicale et les remèdes évoqués, peut-être pas tous parce que sinon on va tuer le site internet de France Inter. J'espère que vous êtes aussi serein qu'une gomme appréciant son intégrité. Je vous retrouve dimanche prochain à 10h en compagnie du comédien Michael Lonsdale.